Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Nartree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Dans ces reines qui ont fait l'Angleterre de Boadicée à Elisabeth II. L'historien Bernard Cotteret propose une histoire de l'Angleterre envisagée à travers des figures féminines de premier plan. Il ne s'agit ni d'une simple galerie de portraits, ni d'une histoire institutionnelle exhaustive de la monarchie, l'ouvrage articule des biographies de reines souveraines. Épouses royales ou figures devenues emblématiques, afin d'interroger les formes concrètes du pouvoir exercé par des femmes. Du souvenir légendaire de Boadicée à la longue présence publique d'Elisabeth II, le livre traverse des périodes où les règles de succession, les alliances dynastiques, la religion, le parlement et les guerres déterminent fortement la marge d'action des reines. Cotteret s'attache aussi à leur vie intime et symbolique sexualité, maternité, mariage, réputation, culture et aspiration personnelle. Cette double attention aux contraintes politiques et aux expériences vécues donne à l'ouvrage son objet propre, restituer l'humanité de femmes souvent réduite par la mémoire. Collective à une image, un surnom ou une fonction dynastique. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le pouvoir féminin comme pratique politique sous contrainte dynastique. Le fil directeur du livre est moins l'idée d'un pouvoir féminin uniforme que l'étude de ses conditions d'exercice dans une monarchie largement organisée par des règles masculines. Une reine peut régner en son nom, gouverner comme épouse, mère ou régente, influencer les alliances ou devenir un symbole national sans disposer des mêmes leviers selon l'époque. Cette diversité interdit de confondre visibilité et autorité effective. Bernard Cotteret replace ainsi les trajectoires individuelles dans les contraintes de la succession, du mariage princier, de la légitimité religieuse et des rivalités entre familles souveraines. Aliénor d'Aquitaine, Isabelle de France, Marie Tudor, Anne, Victoria et Elisabeth II renvoient à des configurations institutionnelles et politiques très différentes. Leur rapprochement permet de voir que la couronne ne protège pas nécessairement une femme des jugements moraux, des pressions matrimoniales ou des contestations de son droit à agir. Le livre éclaire donc une tension centrale, les reines sont indispensables à la continuité dynastique, mais leur autonomie demeure constamment négociée. Cette perspective donne une portée analytique au portrait, il montre comment l'autorité peut s'exercer par décision directe, médiation familiale, représentation publique ou maîtrise des conventions, plutôt que par la seule détention officielle du trône. Deuxièmement, démêler la mémoire légendaire des parcours historiques des reines. L'ouvrage traite les reines comme des personnages historiques dont l'image a souvent été remodelée par la légende, la propagande, les récits nationaux et la postérité. Boadicée relève précisément d'un imaginaire héroïque qui dépasse les données immédiatement disponibles sur sa vie. Tandis que des souveraines telles que Marie Tudor ont longtemps été enfermées dans des étiquettes durables, comme celle de Bloody Mary. En les intégrant à une même enquête, Cotteret invite à examiner l'écart entre réputation et expérience historique. Une figure royale n'est jamais seulement ce qu'elle a fait, elle est aussi ce que ses contemporains, ses adversaires, les chroniqueurs et les générations ultérieures ont voulu retenir d'elle. L'intérêt de cette approche est de ne pas remplacer un cliché négatif par une célébration automatique. Elle demande plutôt comment se forment les images publiques et quels intérêts elles servent. La réputation sexuelle d'une reine, son rapport supposé à la faiblesse ou à l'ambition, son mariage et sa maternité deviennent fréquemment des instruments de jugement politique. Le livre rend ainsi lisible la fabrication d'icônes monarchiques, de figures haïes ou de mythes patriotiques. Il rappelle qu'une biographie royale exige de distinguer autant que possible les faits, les discours de cour et les mémoires nationales. Troisièmement, le corps. Le mariage et la maternité au cœur de la fonction royale. L'une des singularités annoncées de ces reines qui ont fait l'Angleterre est de ne pas séparer artificiellement la sphère intime de l'histoire politique. Pour les reines, le corps n'est pas une question privée au sens moderne, il engage la succession, les alliances internationales, la stabilité confessionnelle et la perception de la légitimité. Le mariage est à la fois une relation personnelle et un acte diplomatique. La maternité peut consolider une dynastie, mais aussi exposer la souveraine à une surveillance publique particulièrement intense. En abordant sans tabou sexualité, séduction, désir et aspiration, Cotteret met en évidence le coût humain de cette position. Les femmes de sang royal sont observées, commentées et souvent jugées à l'aune de normes qui limitent leur liberté tout en leur imposant de produire un héritier ou d'incarner une vertu exemplaire. Cette grille est particulièrement utile pour comprendre pourquoi des conflits apparemment privés prennent une dimension d'État. Elle évite aussi de réduire les reines à leur fécondité ou à leur vie conjugale, ces éléments sont étudiés comme des contraintes parmi d'autres, susceptibles d'affecter leur capacité d'intervention. Le livre propose ainsi une histoire des femmes où les normes sociales et les usages de cour façonnent concrètement le destin politique. Quatrièmement, une traversée de l'histoire anglaise par les crises de succession et les transformations de l'État. Les biographies servent également de porte d'entrée vers une histoire de longue durée de l'Angleterre. En suivant les reines, depuis les récits fondateurs associés à Boadicée jusqu'à Élisabeth II, le livre fait apparaître les changements de cadre monarchie médiévale. Conflits dynastiques, réformes, développement du rôle parlementaire, empire et monarchie constitutionnelle contemporaine. Les périodes appréciées par de nombreux lecteurs, notamment les Tudors, l'époque victorienne et le règne d'Élisabeth II, ne sont donc pas isolées. Elles s'inscrivent dans une succession de redéfinitions du pouvoir royal. Les alliances matrimoniales relient l'Angleterre au continent, tandis que les guerres, trahisons et traités révèlent les risques attachés à la couronne. L'ouvrage inclut des repères généalogiques et chronologiques qui aident à suivre les filiations et les ruptures de succession. Un apport pratique dans un sujet où les liens familiaux sont décisifs. Cette architecture peut être particulièrement utile à un lecteur peu familier de l'histoire britannique. Les institutions ne sont pas présentées de façon abstraite, mais à travers les situations auxquelles les reines sont confrontées. Certaines dimensions juridiques et parlementaires peuvent toutefois demander une attention soutenue. Elles restent nécessaires pour comprendre le passage progressif d'une souveraineté personnelle à une monarchie davantage encadrée par les institutions. En dernier lieu, le portrait biographique pour rendre aux souveraines leur complexité humaine, Cotterêt privilégie une construction en portrait, qui associe l'ampleur chronologique d'une synthèse à la proximité du récit biographique. Ce choix permet de traiter chaque reine non comme un simple maillon généalogique, mais comme une personne située avec ses réussites, ses échecs, ses angoisses, ses affections et ses objectifs. Les anecdotes, les lettres, les témoignages contemporains et les textes politiques peuvent donner une texture plus directe aux trajectoires, en faisant entendre les médiations par lesquelles nous connaissons ses vies. Cette méthode a un avantage net sur un récit exclusivement institutionnel. Elle explique pourquoi la politique monarchique ne se réduit pas à des dates de règne ou à des changements de ministres. Les tempéraments, les relations conjugales, l'éducation, les deuils et la réputation publique modifient aussi l'action possible. En contrepartie, l'usage de documents d'époque et de développement sur le droit ou les traités peut ralentir la lecture pour qui recherche une synthèse très linéaire. Cette densité documentaire correspond néanmoins à l'ambition du livre, éviter une histoire décorative des grandes reines. La galerie de figures conserve une dimension accessible, tout en rappelant que les sources disponibles sont elles-mêmes marquées par les préjugés de leur temps. L'humanisation n'équivaut donc pas à l'idéalisation. Elle consiste à restituer des existences complexes prises dans des contraintes historiques précises. En conclusion, ces reines qui ont fait l'Angleterre s'adressent d'abord aux lecteurs qui souhaitent découvrir ou revisiter l'histoire britannique à partir d'un angle biographique et féminin. Il conviendra particulièrement à ceux que les Tudors, la monarchie victorienne, les dynasties médiévales ou le règne d'Élisabeth II intéressent, mais qui ne cherchent pas un manuel institutionnel pur. Les repères généalogiques et chronologiques facilitent l'orientation dans une matière complexe. Tandis que la succession de portraits rend les grands enjeux. Alliances, successions, conflits religieux, autorité royale et évolution de la monarchie plus incarnée. Le bénéfice intellectuel principal est de comprendre que le pouvoir des reines ne peut être évalué seulement par leur titre, il faut aussi considérer les contraintes exercées sur leur corps, leur mariage, leur maternité, leur réputation et leur accès aux réseaux politiques, par rapport à des biographies isolées ou à des histoires générales de la couronne d'Angleterre. Le livre se distingue par l'ampleur de son parcours et par son attention conjointe à l'intime, au symbolique et au politique. Il ne propose pas une célébration indistincte des souveraines. Il met plutôt en lumière la variété de leurs positions et des jugements portés sur elles. Les lecteurs préférant une narration rapide pourront trouver certaines citations ou explications juridiques exigeantes. Mais cette réserve est aussi le signe d'une démarche qui relie les destins individuels aux institutions et aux sources. L'ouvrage offre ainsi une synthèse accessible mais substantielle de l'histoire des femmes au sommet de l'État anglais. Si vous souhaitez soutenir Bernard Cotterêt, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.